Bonjour, bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui sur ce stand EDF. Merci aussi à tous ceux qui sont connectés en ligne et je sais qu'ils sont nombreux pour pouvoir assister à cette conférence que Cécile Laugier et moi allons animer aujourd'hui sur un sujet qui est essentiel, un sujet qui est éminemment sensible, qui concerne aujourd'hui tous les territoires, toutes les entreprises, tous les acteurs de la vie économique et sociale, qui est le sujet de l'eau, de la gestion de l'eau, du partage de la ressource en eau. Un sujet que j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter donc avec Cécile. Moi, je suis Hugues Ranson, ancien élu, certes, mais surtout aujourd'hui secrétaire général d'EDF Hydro. EDF Hydro, c'est la direction d'EDF qui s'occupe de la production d'hydroélectricité, à savoir comment est-ce qu'on va essayer de produire de l'électricité en turbinant de l'eau. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre attention. Et je laisse Cécile se présenter devant vous.
Oui, merci Hugues. Donc Cécile Laugier, moi je vais partager cette présentation avec Hugues, sachant que moi je vous parle d'un autre point de vue, mais qui fait partie du groupe EDF, qui est l'entité de la direction de la production nucléaire. Dans cette direction, personnellement, moi, je suis en charge de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Bien, l'environnement, ça veut dire que toutes les centrales de production d'électricité produisent cette électricité avec le moins possible de déchets, de rejets et de prélèvements d'eau. Voilà, c'est très simple. Et on se rencontre souvent, puisque nous avons une passion commune, je dirais, qui est celle de travailler autour de notre ressource commune, ce bien commun qui est la ressource en eau.
Alors peut-être un petit mot pour commencer cet échange autour du contexte particulier, qui est un contexte que chacun perçoit de changement climatique et avec une responsabilité particulière pour un acteur comme le groupe EDF vis-à-vis de cette ressource en eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément à avoir en tête, avant tout, c'est que l'eau est absolument indispensable à la production d'électricité. On ne peut pas produire d'électricité sans eau, soit directement, c'est le cas de l'hydroélectricité, puisqu'on turbine de l'eau pour pouvoir produire, soit indirectement, lorsque l'eau contribue à des process industriels, et c'est le cas des sources froides de nos centrales nucléaires, dont on vous parlera avec beaucoup plus de précision, Cécile Laugier, dans un instant. C'est absolument essentiel à comprendre. On a cette responsabilité vis-à-vis de la ressource, on a cette responsabilité vis-à-vis des territoires, et lorsqu'on travaille dans l'hydroélectricité, on a une spécificité particulière qui est la question de ce qu'on appelle le multi-usage. Il y a d'autres usages de l'eau que la seule production d'électricité derrière nos barrages. Bien sûr, la vocation première d'un barrage hydroélectrique, c'est de produire de l'électricité, mais ce n'est pas la seule des vocations, et nos barrages servent bien d'autres usages que cette production d'électricité. Ayez en tête que 70% de nos concessions hydroélectriques servent d'autres usages que la production d'électricité. Ce sont les questions d'irrigation pour notre agriculture, c'est l'eau industrielle, c'est évidemment la question de l'eau potable. C'est aussi la question, alors on a peut-être un petit accident, voilà, tout va bien. Donc la question de l'eau potable, la question de l'eau industrielle, la question aussi de l'eau à destination d'usage touristique, d'activité nautique. Il y a le sujet du soutien d'étiage. Donc toute l'eau qui est derrière nos barrages peut servir d'autres usages, avec une dimension très particulière aussi. Ici, au Salon des Maires, c'est de considérer que nos barrages ont par ailleurs une dimension très patrimoniale, un ancrage particulier dans les territoires, et qu'ils ont par ailleurs une vocation environnementale et en matière de biodiversité. Donc ces usages-là nous permettent de comprendre que EDF a cette responsabilité et en font une double casquette. La casquette de l'utilisateur de l'eau, qui d'ailleurs n'est pas forcément un consommateur, mais EDF utilise de l'eau. Et puis EDF est aussi perçu comme étant le gestionnaire d'un robinet qui permettra d'autres usages de l'eau et qui permettra pour d'autres usagers d'avoir accès à la ressource. Alors évidemment, cette position particulière, elle est mise à l'épreuve par les questions de changement climatique. Elle est mise à l'épreuve par des phénomènes climatiques que chacun perçoit. Le changement climatique, ce n'est plus une menace, c'est une réalité qui est perceptible par tous. Et avec des années qui se suivent, des années qui ne se ressemblent pas et une complexité à comprendre les phénomènes et à comprendre les grandes tendances. Évidemment, les grandes tendances, on les connaît hein, pour l'essentiel d'entre elles, notamment sur la trajectoire de réchauffement des températures. Il y a une autre tendance qu'il faut avoir en tête, qui est la grande variabilité et la grande imprévisibilité des précipitations, et on le perçoit encore aujourd'hui. Et puis, par définition, des conséquences qui ont lieu et qui se produisent sur les débits d'eau dans nos rivières et dans les cours d'eau. Et avec donc des années qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas. On a eu en année 2022 une année de sécheresse très prononcée. Et puis on a en cette année 2024, évidemment, une année particulièrement humide, ce qui fait qu'on doit gérer à la fois le trop peu puis de manière assez brutale des années de trop plein, et avec la nécessité de bien anticiper ces phénomènes, d'essayer de les comprendre et de concilier ces deux dynamiques qui ne sont pas du tout contradictoires, mais que sont les dynamiques d'eau et les dynamiques d'énergie et de production d'énergie, avec d'un point de vue hydro, un besoin à turbiner essentiellement l'hiver, lorsqu'on a besoin de produire et d'assumer et d'assurer ces pics de consommation. Et puis, du point de vue des autres usages, probablement un besoin qui est plus sensible pendant les périodes d'été, et notamment avec les questions d'étiage, de soutien d'étiage, qui sont des soutiens plus longs et plus difficiles à anticiper dans ces moments-là. Et donc, cette question de l'anticipation, de la coordination, elle est absolument essentielle à la fois entre le groupe EDF et les acteurs externes, les acteurs du territoire. Et elle est essentielle aussi au sein même du groupe EDF pour qu'on puisse être coordonnés entre les différents types de production. Et Cécile, tu vas probablement nous en dire plus.
Oui, merci Hugues. Donc, pour ce qui concerne le nucléaire, comme ça a été dit, en France, nos centrales sont toutes implantées, soit en bord de mer, où là, on utilise directement la ressource très abondante de l'eau de mer, soit en bord de rivière. Nous avons beaucoup de centrales qui sont implantées en bord de rivière, ce qui fait de nous, effectivement, au classement des utilisateurs d'eau, on est, je dirais, un peu sur le podium, même si l'eau qu'on utilise pour notre refroidissement, la principale caractéristique, vous l'avez peut-être entendu, c'est qu'en fait, elle est à peu près totalement restituée. Plus de 90% de l'eau qui est prélevée, elle est restituée au milieu, mais elle n'est pas restituée n'importe comment. Elle est restituée pratiquement immédiatement. Elle est donc immédiatement disponible pour les autres usages parce qu'elle est aussi restituée au même endroit, dans la même masse d'eau. Donc, effectivement, au plan physique, il y a beaucoup d'usages qui restituent l'eau en quantité, mais on a quand même cette caractéristique. Alors, pour, comme ça a été dit, pour les barrages, l'eau passe, et là, c'est effectivement 100%. Pour les centrales, l'eau, elle va passer dans ce qu'on appelle un instrument qui s'appelle le condenseur. Elle est totalement indépendante de la réaction nucléaire, mais elle est indispensable pour produire de l'électricité. Et on la restitue immédiatement, quasiment à 100% sur certaines centrales, un peu moins pour d'autres. Mais vraiment immédiatement disponible pour les autres usages. Alors, quand les centrales sont en bord de rivière et qu'elles sont équipées de tours aéro-réfrigérantes, donc ça, ce sont les grandes tours que vous voyez souvent dans votre paysage et qu'on associe aux centrales nucléaires. Alors, c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des centrales pas nucléaires qui peuvent avoir des tours et il y a des centrales nucléaires qui peuvent ne pas en avoir. Donc, c'est vraiment une question de physique dans laquelle je vais pas rentrer, bien sûr. Mais ces tours, elles ont quand même une grande qualité. C'est qu'elles vont permettre d'emporter toute la... Pourquoi on a besoin de l'eau, en fait ? On a besoin de l'eau parce qu'en fait, on a, dans notre process, besoin de dégager de la chaleur. Et effectivement, cette chaleur, soit elle est transmise au fleuve, donc ça veut dire qu'on a des impacts thermiques, soit elle est transmise à l'atmosphère grâce à ces grandes installations qui fonctionnent comme des évaporateurs. Donc ces installations, elles ont un grand mérite, c'est qu'effectivement, du coup, le réchauffement vers le fleuve et donc vers les écosystèmes est quasiment nul, plus perceptible. En revanche, parce qu'il y a une contrepartie, ces grands tours, elles évaporent de l'eau. Ce que vous voyez là, c'est de l'eau, en fait. Hein, c'est vraiment comme un nuage. Et ça, par contre, c'est cette eau qui est évaporée dans l'atmosphère, eh bien, elle ne revient pas tout de suite dans le milieu. Donc là, du coup, on est quand même un peu consommateur. Et ça, ça nous place, je dirais, au troisième rang des consommateurs d'eau en France, puisque le premier consommateur, c'est l'agriculture. Le deuxième, c'est l'eau potable. Avec 400 millions de mètres cubes par an, l'ensemble des centrales nucléaires en bord de fleuve est au troisième rang. Donc c'est beaucoup. Et en même temps, voilà, c'est du même ordre de grandeur que d'autres usages. Voilà, donc ça, c'est le, voilà, c'est la façon dont ça fonctionne. Donc le trait d'union avec les autres usagers le long des fleuves, effectivement, ben, c'est la ressource en eau. Et dans un certain nombre de cas, en amont des fleuves qui nous intéressent, eh bien, on va trouver nos collègues de l'hydraulique. Et la force du groupe, c'est de gérer de façon intégrée toutes ces capacités de produire de l'électricité qui, dans les deux cas, sont des électricités pilotables et bas carbone. Donc, le mix des deux est extrêmement performant parce que, dans les deux cas, donc, zéro carbone dans l'atmosphère et une énergie pilotable parce que, dans les deux cas, souvent, on a une capacité de stock tampon, en fait. C'est le cas pour l'hydraulique, on va y revenir, mais, quelque part, une centrale nucléaire, c'est aussi une capacité de stock, parce qu'aujourd'hui, dans le mix électrique dans lequel nous vivons, avec beaucoup de variations, eh bien, comme l'hydraulique, nous aussi, on participe à nous ajuster par rapport aux besoins intermittents du réseau. Et il se trouve que notre combustible, c'est une sorte de stock, parce que si on doit s'adapter, baisser un peu la puissance, en France, on sait faire. Mais le combustible nucléaire qu'on n'aura pas consommé, finalement, il va être disponible, par exemple, un peu plus tard, quand on en aura besoin. Voilà, donc, voilà, une coopération, un mix qui est extrêmement performant entre nos deux énergies.
Avec donc, vous l'aurez compris, un groupe EDF qui est un acteur majeur de l'eau dans le pays. Et c'est un acteur qui, du coup, travaille de longue date, et Cécile l'a évoqué, à des synergies en son sein et à une vraie expertise qu'il faut sans aucun doute sans cesse renforcer, au motif notamment que nous sommes dans ce contexte de changement climatique que nous évoquions tout à l'heure, avec des réalités qui complexifient sans aucun doute la gestion des stocks et qui doivent nous conduire à anticiper au mieux toutes les contraintes qui se posent à nous par rapport à ces gestions qui sont plus complexes. Et cela suppose évidemment, beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'expertise aussi. On parle souvent de turbiner, des lâchers d'eau, mais d'expertise pour remplir également nos réservoirs et gérer les stocks au mieux. C'est la raison pour laquelle le groupe de longue date a formé des équipes, a constitué des équipes. Je pense à ce qu'on appelle la DTG, la Direction Technique Générale, qui travaille autant pour le nucléaire que pour l'hydraulique. Je pense évidemment aussi au service climatique de la R&D, de nos équipes de la R&D, et avec, au fond, quelque chose qui nous permet, groupe EDF, d'avoir une surveillance fine, précise, rigoureuse et permanente à la fois des phénomènes météorologiques à venir et aussi, sans aucun doute, du niveau des débits des cours d'eau sur lesquels il faut évidemment qu'on puisse anticiper au maximum les choses. C'est aussi la raison pour laquelle nous disposons d'un réseau de 1100 capteurs sur le territoire, de 1100 stations de mesure qui nous permettent de prélever des données et d'examiner chaque jour plus de 15 000 données météorologiques et de prévisions. C'est aussi la raison pour laquelle nous engageons des partenariats avec différents services de l'État, différentes agences. Je pense aussi à Météo France, avec lequel nous travaillons évidemment beaucoup pour pouvoir justement anticiper au mieux les niveaux des cours d'eau. Et donc la production d'électricité, elle va dépendre de ces différents facteurs. bien sûr, les besoins du système, les besoins du réseau. Le deuxième facteur, c'est les besoins des autres usages de l'eau dont je parlais tout à l'heure et qui sont importants. L'eau est un bien commun qui n'appartient pas à EDF, qui n'appartient à personne, et il faut assurer cet équilibre-là. Et puis, les prévisions d'apport qui sont constituées, étudiées, méthodiquement anticipées par les équipes du groupe. Et donc, on a cette situation temporelle où, en hiver, on va avoir besoin de produire de l'électricité, donc les réserves d'eau derrière les barrages vont plutôt se creuser. Et puis, au printemps, ces creux vont devoir être résorbés pour pouvoir anticiper au mieux l'été. Et donc, comment est-ce qu'on résorbe les creux? Ben, c'est justement en ayant cette analyse fine de ce qui est prévisible, à savoir la fonte des neiges, et puis probablement l'anticipation aussi de ce qui est moins prévisible, que sont les précipitations ou que peuvent être des orages soudains ou des orages violents. Et c'est ces données-là qui nous permettent d'anticiper et de coordonner au mieux nos activités avec une expertise qui nous permet de travailler hydraulique et nucléaire main dans la main et de permettre au groupe EDF de trouver l'optimum pour le groupe, l'optimum aussi pour notre mission première qui est la production d'électricité et l'optimum pour le système électrique. Et Cécile l'évoquait rapidement à l'instant, en interne, il nous faut garantir cet usage optimisé là où il y a en amont des centrales, des réservoirs EDF. Il faut qu'on puisse travailler main dans la main et anticiper ce genre de sujet. Cécile, sur la question peut-être de la concertation et de la coordination, oui, avec les autres acteurs.
Alors assez naturellement, on va passer de l'optimisation à la coopération et à la concertation sur le territoire, parce que EDF est présent sur les territoires et notamment dans ces instances si importantes pour la gestion de l'eau que sont les comités de bassin et leurs instruments que sont les agences de bassin. Donc je salue quelques amis qui ont bien voulu nous faire le plaisir d'assister à notre conférence. On était ce matin à une de ces réunions du comité de bassin. Alors j'insiste parce que les comités de bassin, on va fêter les 60 ans de la loi sur l'eau qui a installer ces comités et ce système avec ces agences de l'eau qui ont un mérite extrêmement, enfin, qu'on souligne pas assez souvent, c'est que on a au niveau des bassins hydrographiques, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer des instances de concertation qui transcendaient les habituelles limites administratives, hein, c'est ni des départements ni des régions, c'est des mailles beaucoup plus grandes qui sont conformes aux bassins hydrographiques. Et dans ces bassins, bien sûr, chaque bassin, il y a ces parlements de l'eau dans lesquels sont représentés des élus. Madame Girondin est avec nous. Les services de l'État. Merci, Monsieur Collet. Et les usagers économiques et non économiques. Et EDF a sa place et tient à être représenté dans chacun des six bassins en France. Donc moi-même, j'ai le plaisir de siéger au comité de bassin Seine-Normandie qui va de la Côte d'Or jusqu'à la Côte Normande. Et sur ce bassin, nous avons des enjeux. Alors, avec mes collègues de l'Hydro, effectivement, certains sont plutôt en métier hydraulique pour siéger, par exemple, au bassin Rhône-Méditerranée. Et vu les enjeux de l'Île-de-France, moi, pour le métier nucléaire, mais pour l'ensemble des intérêts de la production d'électricité, nous participons à ces travaux qui sont des travaux de programmation, des travaux qui visent tous à l'amélioration de la qualité de la ressource en eau, qui est quand même un sujet très important et sur lequel beaucoup de progrès ont été faits, mais encore beaucoup reste à faire. Et pour ce qui nous concerne, par exemple, sur ce bassin, bien, nous avons la centrale de Nogent-sur-Seine, qui est la plus proche d'ici, et trois centrales qui sont sur le territoire de la Normandie. Donc un bel exemple de concertation avec les parties prenantes, parce que je pense que voilà, nous avons des débats, des partages, et on construit ensemble ces schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. On construit ensemble un certain nombre d'autres démarches, et il y a une mécanique financière de redistribution qui... Voilà, on ne fait pas juste des schémas, on fait aussi, on donne des moyens, on va chercher les ressources financières auprès de moyens de redevances. Et EDF est un des contributeurs importants à ces redevances. Et ces redevances permettent d'aider des projets sur le territoire Et le plus emblématique ici, c'est quand même grâce à ce mécanisme qu'une bonne partie du plan baignade sur la Seine a été financée avec le succès que vous savez pour les Jeux Olympiques.
Merci Cécile. Alors vous voyez quelles sont les responsabilités particulières du groupe EDF par rapport à la ressource en eau. Maintenant, quand on réfléchit aux différents schémas d'avenir, à ce qui pourrait se produire dans ce contexte de changement climatique que nous évoquions tout à l'heure, il faut qu'on puisse essayer de penser le modèle, de penser l'avenir et d'avoir à travailler, comme tous du reste, sur les sujets d'adaptation au changement climatique. Et cette question-là, elle est absolument essentielle parce que face aux phénomènes violents qu'on a chacun constaté ces dernières semaines, mais pas que, par définition, la première chose à avoir, c'est une forme d'humilité, sans aucun doute, essayer de comprendre, essayer d'anticiper des phénomènes qui, jusqu'à présent, dans beaucoup de modèles, ne pouvaient pas être concevables dans notre pays et dans nos territoires. Il faut essayer de le comprendre et de l'anticiper. Ça se fait à plusieurs niveaux. D'abord, avec la mise au point de différents plans d'adaptation au changement climatique. Évidemment, le pays se prépare et met en place ce type de plan et de stratégie d'adaptation. Un groupe comme le groupe EDF également se prépare. Le nucléaire a un plan bien connu sous le nom d'ADAPT. Nous avons mis en place dans l'hydraulique un plan d'adaptation au changement climatique spécifique qui s'appelle le plan ARCHE et qui a vocation justement à réfléchir à l'adaptation à la fois de nos connaissances, l'adaptation aussi de notre patrimoine, l'adaptation de notre modèle d'exploitation, puis l'adaptation de notre communication, l'adaptation de notre positionnement par rapport à des territoires qui sont soumis à ces aléas et ces changements de modèle. Je pense notamment aux territoires de montagne et de moyenne montagne. Et donc, la mise en place de ces plans, ce ne sont pas des déclarations d'intention, ce sont des actions très concrètes qui nous permettent justement de nous adapter comme le font tous les territoires sur lesquels nos installations se trouvent. Une fois qu'on a mis en place ces plans, il y a le sujet ensuite, évidemment, de l'adaptation concrète de nos modèles. On a un exemple dans l'hydro que je mentionne assez régulièrement parce qu'il est connu, c'est l'exemple de la captation de la fonte du glacier de la mer de glace où on a dû reculer la prise d'eau des bois pour pouvoir justement la modifier compte tenu de cette fonte nouvelle et irréversible et qui change justement notre modèle patrimonial et notre modèle d'exploitation. Il y a un autre, sans rentrer dans la technique, que d'ailleurs je serais bien incapable de vous expliquer, mais on a un nouveau modèle d'évacuateur de crues sur les barrages que sont les PKWare, qui sont des évacuateurs de crues en touche de piano et qui permettent justement d'atténuer, parce que je vous parlais du trop peu, mais il y a aussi le trop plein, et on a tous en tête les images de crues excessives, monstrueuses, très impressionnantes qui ont marqué le territoire, et notamment l'Ardèche ces dernières semaines. Permettez-moi à ce stade aussi de saluer les équipes d'Hydro qui se mobilisent régulièrement sur les crues ces dernières semaines et elles se sont elles n'ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour faire face à ces phénomènes climatiques. Et puis on a aussi d'autres projets qui pourraient être réfléchis comme les réhausses de barrages et qui permettent justement à la fois de sécuriser les soutiens d'étiage et puis d'améliorer aussi la flexibilité en matière de production hydroélectrique et en fonction des besoins immédiats. Et donc cette question-là de la projection, de l'innovation, de l'adaptation, c'est évidemment aussi au cœur de l'activité du groupe EDF. Cécile, tu as aussi d'autres exemples d'innovation dans le nucléaire.
On a été, je dirais qu'on est très stimulé dans le contexte actuel pour pousser l'innovation encore plus que ce qu'on faisait habituellement, parce qu'on a la chance d'avoir une R&D puissante et bien ancrée, qui nous aide par exemple à évaluer de façon extrêmement précise l'impact de l'échauffement de nos centrales sur les écosystèmes dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde depuis plus de 50 ans. Hein. On fait des programmes spécifiquement sur thermie hydrobiologie, c'est-à-dire qu'on regarde de façon détaillée entre l'amont et l'aval d'une centrale s'il y a des effets sur les poissons, bien sûr, mais aussi les autres écosystèmes aquatiques. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, ces programmes nous rassurent sur le fait que les effets sont très peu perceptibles, ils sont ténus et très localisés. Pour autant, voilà, on doit travailler sur ces impacts. Donc ça, c'est un exemple de notre R&D, celle qu'on fait depuis très longtemps. Mais avec l'urgence climatique aujourd'hui, on a aussi investi, et ça c'est plus récent, de la R&D en rupture sur des solutions technologiques sur lesquelles, honnêtement, il y a 10 ans, on n'aurait pas regardé, ou en tous les cas, on se serait pas investi autant. Et pour vous donner un exemple, on a identifié, grâce à notre veille technologique, une petite entreprise outre-Atlantique, une start-up du MIT, qui a développé un système de récupération d'une partie de l'eau qui s'évapore dans ces fameux panaches. Et en fait, cette innovation nous a vraiment intéressés parce que voilà, elle propose un système assez novateur, hein, notamment ils utilisent la possibilité, ils utilisent des sortes de grilles qui sont mises un peu sous tension pour attirer les gouttelettes et les faire recondenser, puisque dans ce panache il y a de la vapeur d'eau qui est de l'eau sous forme de gaz, mais il y a aussi de l'eau sous forme de gouttelettes. Et donc on a décidé de tester pour savoir si vraiment ça avait des capacités techniques, et puis on conteste si économiquement combien ça coûte, est-ce que c'est durable. Et donc sur notre site du Bugey, qui est dans l'Ain, à côté de Lyon, nous avons une installation expérimentale de grande taille, hein, c'est un grand bâtiment, hein, dans lequel on a une sorte de mini installation d'évaporation d'eau. Et donc on a installé ce pilote avec cette société et on est en train de conduire les essais. Là, ils ont commencé l'été dernier, on est en train de les dépouiller. Et c'est assez intéressant parce que même si on récupère quelques pourcents de cette eau qui s'évapore, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur des débits industriels assez conséquents. Même 1 à 10% de ces débits, ça peut faire des quantités d'eau assez significative. En tous les cas, ça pourrait être de l'ordre de grandeur de l'eau dont on a besoin pour notre process industriel. Donc, c'est pas du tout négligeable. Après, il y a certainement beaucoup de sujets, de techniques de mise au point. Mais voilà un bel exemple parce que, voilà, on est poussé et on voit bien que, voilà, cette eau qui s'évapore, si on pouvait en récupérer une partie, bah, dans le contexte de changement climatique que nous vivons, ce sera peut-être bon à prendre. Voilà.
Voilà pour ce qui est de l'action, de l'engagement du groupe EDF par rapport à cette ressource en eau, avec, on le comprend, une nécessité de se projeter dans l'avenir. Il y aura nécessairement aussi à investir dans la data, dans l'usage des données, dans l'intelligence artificielle, comme tous les acteurs, parce que ce sont des pistes qui nous permettent d'imaginer, nous améliorer, mieux anticiper, et avec cette question essentielle qui est le partage de la donnée, le partage de l'information, parce que, Cécile l'a rappelé, la bonne gestion de l'eau, le bon partage de l'eau, c'est un partage qui se fait avec une gouvernance qui est certes complexe, mais qui permet à tous les acteurs, et beaucoup d'acteurs qui d'ailleurs ont des intérêts qui ne sont pas forcément toujours dans le même sens, mais en tout cas qui sont des intérêts complémentaires, pas forcément contradictoires, mais complémentaires, et ce qui nous permettra justement d'agir en responsabilité, collectivement, comme nation constituée avec des acteurs économiques, des collectivités locales, la nation et tous les usagers de l'eau pour pouvoir aborder ces sujets avec beaucoup de confiance. Le groupe EDF travaille à formaliser cette politique de l'eau, ou en tout cas à repenser sa politique de l'eau, ce qui permettra aussi, dans ces instances, de pouvoir défendre avec beaucoup de conviction, beaucoup d'exemples et beaucoup d'écoute aussi les différentes pistes qui sont devant nous pour pouvoir gérer intelligemment cette ressource dont on n'imaginait pas il y a encore quelque temps qu'elle pourrait devenir aussi rare et aussi sensible. Merci à vous pour votre attention. Peut-être y a-t-il quelques questions qui pourraient nous être posées à Cécile et à moi.
Avant les questions sur Internet, une petite question pour vous deux. Aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, qui prend la décision finale entre partager l'eau qui serait nécessaire aux agriculteurs pour nourrir la nation et l'eau qui est nécessaire pour fabriquer de l'électricité, qui est elle-même nécessaire pour faire vivre et nourrir l'économie?
Alors, c'est une question intéressante parce que, en fait, en France, je pense que la question se pose très différemment si on est en période normale, ou si on est en période de crise, comme on l'était il y a 2 ans, l'été 2022. Et en fait, la France a encore le bénéfice d'avoir une ressource en eau abondante. Donc, lorsqu'il n'y a pas de conflit d'usage, En fait, les usagers utilisent l'eau et les concertations se font, je dirais, de façon assez naturelle, comme elles se sont toujours faites. La situation change quand les crises se nouent. Et j'ai un exemple en tête, notamment sur la Loire, hein, où il y a un comité de gestion des étiages. Et ce comité de gestion, présidé par le préfet et dans lequel sont réunies les parties prenantes. Donc c'est une instance qui est différente du comité de bassin, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment des instances dédiées pour la gestion quantitative et notamment pour les gestions de crise. Donc c'est encore peu répandu en France. Par contre, c'est un modèle qui est courant. En tout cas, c'est le modèle général en Espagne, hein, où la criticité de l'eau est bien plus avérée. En France, on a aujourd'hui des exemples ciblés, comme je disais, sur le bassin de la Loire. C'est un mécanisme qui est en place pour gérer et pour partager au mieux, et surtout pour avoir une démarche d'anticipation. C'est-à-dire lorsque les besoins s'expriment au mois de juin, au mois de juillet, qui sont élevés, il y a une démarche de parcimonie qui consiste à garder de l'eau en se disant il faut quand même qu'on tienne tout l'été et jusqu'en septembre et jusqu'en octobre. Donc il y a des objectifs de débit d'étiage qui sont décidés après concertation des parties prenantes et qui mettent ce partage de l'eau, je dirais, à l'épreuve, mais vraiment dans une logique d'anticipation, parce qu'il faut, tenir jusqu'à la fin d'automne pour que tous les usages soient servis.
Par ailleurs, j'apporte un petit complément sur ce qu'est l'hydroélectricité en particulier. Je disais tout à l'heure que 70% des concessions hydroélectriques prévoient d'autres usages, ou en tout cas servent d'autres usages que la seule production d'électricité. C'est souvent prévu dans le contrat de concession, donc c'est prévu, c'est contractuel et c'est une obligation de le gérer ainsi. Parfois, ce n'est pas prévu et c'est un engagement volontaire, justement, en lien et en partenariat avec des territoires qui ont des besoins, et ça se fait en bonne intelligence et dans le partage. Et je rappelais aussi tout à l'heure qu'il y a la double casquette du groupe ETF d'utilisateur d'eau et aussi de gestion d'un robinet, mais l'eau n'appartient à personne. Et in fine, dans cet arbitrage, ça restera toujours l'État qui, en cas de conflit d'usage, pourrait arbitrer quel est le meilleur usage ou l'usage le plus urgent en cas de crise, notamment, comme le rappelait Cécile.
Alors, on va avoir deux dernières petites questions en ligne. La première, est-ce que les barrages peuvent être une réponse au changement climatique de certains territoires en limitant, par exemple, les sécheresses et les inondations? Et on me cite des exemples comme les Cévennes ou la Roya. Et peut-être une question plus pour Cécile. Est-ce qu'il existe des projets de centrales ou d'ajustement des centrales françaises pour qu'elles ne consomment pas l'eau de l'environnement, mais des circuits fermés? Et on me cite l'exemple de Palo Verde, Arizona.
Vas-y, Cécile, sur la dernière, puis je...
Alors, on est effectivement, on étudie, hein, des évolutions de nos systèmes de refroidissement, en particulier les centrales sur le Rhône, hein, qui sont pour certaines encore en ce qu'on appelle en circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau est intégralement prélevée et restituée, mais il y a de la chaleur qui est transmise au fleuve. Et effectivement, la demande du comité de bassin, de l'agence de l'eau et puis de l'État, c'est qu'on examine comment doter ces trois centrales sur le Rhône de ces aéro-réfrigérants, puisque ces trois centrales n'en ont pas été équipées à l'origine. Donc voilà, ce sont des études extrêmement assez longues, assez techniques, assez coûteuses, parce que ces installations, sont, quand elles sont construites en même temps que la centrale, on comprend que c'est intégré à la conception. S'il faut les ajouter après, c'est très compliqué. Mais effectivement, dans certains pays du monde, je pense à l'Espagne ou à d'autres pays, ça a été fait. Donc on va regarder. Et le cas de la centrale de Palo Verde qui est cité, c'est un petit peu différent. C'est une centrale nucléaire en plein désert aux États-Unis qui est dotée d'aéro-réfrigérants, mais qui en plus va chercher de l'eau des stations d'épuration d'une grande ville qui est à plusieurs kilomètres, qui s'appelle Phoenix, hein, c'est pas une petite ville. Et ces eaux usées en fait sont amenées par des canalisations de plusieurs kilomètres, et la centrale utilise uniquement ces eaux usées. Donc c'est un très bel exemple de réutilisation d'eau usée, puisque là où elle est située, il n'y a ni rivière, ni lac, ni mer. Et ça marche quand même.
Et pour répondre à la question sur les barrages et le changement climatique, oui, 100 fois oui, 1000 fois oui, les barrages sont des outils de résilience face au changement climatique. C'est pour beaucoup un peu contre-intuitif. Quand on a manqué d'électricité, ou on craignait de manquer d'électricité en 22 et qu'on n'avait pas beaucoup d'eau, on se dit, oh là là, l'hydro, mais est-ce que ça a encore un avenir? Oui, ça a un avenir, précisément parce que les barrages permettent cette gestion des étiages, cette gestion des sécheresses, cette gestion aussi des crues. On ne le dit pas suffisamment, mais l'écrêtement des crues, l'évacuation des crues, la gestion justement de ces phénomènes climatiques se fait grâce aux barrages hydroélectriques. Donc c'est un peu contre-intuitif pour certains, mais oui, bien sûr, les barrages permettent d'anticiper et permettent de s'adapter au mieux à ces phénomènes, évidemment en lien avec les territoires et pour faire résonance à tous les sujets que nous avons évoqués très rapidement, probablement trop rapidement aujourd'hui. Mais on voulait en tout cas vous remercier chaleureusement de votre présence, vous remercier de votre attention et de vous dire que le groupe EDF est évidemment pleinement mobilisé sur ce sujet climatique et sur cette question de l'eau qui sont absolument essentielles pour le pays dans son ensemble. Merci à vous.